c'est un scénario de film. Moi, je me dis que je suis coincée entre la DGSE et les francs-maçons et que j'essayais juste de faire mon métier, qui est un métier d'aide, promouvoir le coaching et donc indirectement le fait d'aider les personnes qui sont en souffrance.
Bonsoir, des agents de la DGSE, d'anciens flics, les frères d'une loge maçonnique, une coach d'entreprise et un pilote de course automobile. Voilà le générique parfait de ce qui pourrait être un mauvais film d'espionnage ou une parodie d'OSS 117. Sauf que cette liste qui prête à sourire cache bel et bien un scénario criminel, une officine de règlement de comptes. Au mois de juillet 2020, le rideau s'est levé sur cette insoupçonnable organisation tissée certes de façon artisanale, mais qui s'apprêtait à tuer une femme chef d'entreprise, un contrat de quelques milliers d'euros comme il en existe dans le milieu, avec le recrutement pour cette basse besogne d'hommes mûrs et expérimentés des militaires appartenant à la DGSE. L'histoire ne va pas s'arrêter là. L'enquête va montrer que cette officine était déjà passée à l'action en éliminant 2 ans auparavant et en toute discrétion un pilote automobile. Cette mort était jusque-là restée inexpliquée. 8 personnes sont écrouées, mais d'autres opérations ont-elles eu lieu? D'autres étaient-elles programmées? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec nos invités. Questions qui se posent également dans les milieux policiers. Des policiers qui ont baptisé cette affaire au parfum d'espionnage le dossier des légendes, référence directe à la série télé Le Bureau des légendes, même si ici les hommes de l'ombre étaient plutôt voyants. Au matin du vendredi 24 juillet 2020, un peu après 8 heures, la police est prévenue du comportement suspect de 2 individus habillés en noir portant des gants. Ils se trouvent dans une voiture stationnée dans une zone pavillonnaire de Créteil. Ils semblent guetter les allées et venues d'une résidence. C'est un passant et une voisine alertés par ce curieux manège qui ont prévenu les policiers. Il pourrait s'agir de rôdeurs. La patrouille est sur place à 8h20 pour un contrôle d'identité. Les agents sont tout de suite intrigués par le véhicule. Il a une vitre cassée. Un jeu grossier de fausses plaques d'immatriculation a servi à le maquiller. Après vérification, il apparaît que cette voiture vient d'être déclarée volée. Les 2 hommes ont sur eux le nécessaire des parfaits malfrats. Des gants, des couteaux de l'armée. Dans un sac rouge, côté passager, il y a un pistolet de calibre 9 mm avec une cartouche engagée dans la chambre. Une arme prête à faire feu. Un silencieux artisanal, un pot de compote bourré de coton est également retrouvé. Les 2 individus, suspectés de préparer un mauvais coup, sont interpellés. Ils ne montrent aucune résistance. Ils sont placés en garde à vue. Pierre B, 28 ans, et Karl E, 25 ans, ont décliné sans difficulté leurs identités, mais aussi leurs qualités. Pas vraiment banal. Ils sont 2 agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, chargés des missions d'espionnage. Ils disent appartenir au service Action, l'unité qui se voit confier les missions les plus périlleuses à l'étranger et sont basés au camp de Sercotte, dans le Loiret, le centre névralgique des services spéciaux, l'endroit d'où partent les missions les plus périlleuses, où sont également accueillis et débriefés certains otages. Il va s'avérer que le duo fait bien partie de la DGSE, mais n'appartient pas au service Action proprement dit, mais à la compagnie de commandement et de logistique qui s'occupe entre autres de la sécurité du camp, unité très rarement impliquée dans des missions spéciales. Pierre B et Karl E vont être transférés dans les locaux de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. Ils se taisent, secret défense oblige. Toutefois, lors du trajet en voiture, Pierre B, le plus au fait de l'opération, évoque un projet hostile, selon le jargon du renseignement. Il raconte qu'il est le responsable de cette mission, qu'il a agi pour le compte de la DGSE, a reçu l'ordre d'éliminer une femme de 54 ans, une certaine Marie-Hélène Bini. Elle est directrice d'un centre de formation en coaching. Le militaire ne veut pas en dire beaucoup plus. Son comparse, Karl E, semble lui ignorer tous les tenants et aboutissants exacts de cette mission. Il s'agit pour lui d'une première. Les 2 hommes font savoir que leur hiérarchie va les sortir de ce mauvais pas, un simple malentendu. Mais la DGSE ne va pas lever le petit doigt pour venir à la rescousse de ses agents. Le parquet de Paris, prévenu de cette embrouille à mini, est vite fixé. La hiérarchie militaire parle d'une opération strictement privée et qui n'a jamais reçu l'aval des autorités. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes le chef du service justice police à RTL et vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire. On ne peut pas dire que ce soit très professionnel, cette espèce de surveillance de cette coach à l'entreprise. Rapidement, on trouve que ces hommes se font vite repérer, quoi.
C'est même totalement incroyable par rapport à ce qu'on apprendra par la suite et au fait qu'il y a effectivement un contrat sur cette femme. C'est incroyable parce qu'ils font des erreurs de débutants. Alors, évidemment, ce ne sont pas des professionnels du crime, mais ils sont d'abord au contact du service action depuis longtemps. Ils sont embauchés par des gens qui, eux, se revendiquent comme spécialistes de la sécurité. Et ils vont tout d'abord attendre cette femme dans cette petite rue résidentielle de Créteil, dans cette Clio noire qui est absolument reconnaissable. Ils sont là, le voisin qui a alerté, il les décrit, assis à l'avant, avec l'un a une capuche sur la tête, l'autre a la cagoule autour du cou. Et quand il passe la première fois, ils voient que l'un a une oreillette et ils font tout d'un coup semblant de dormir, oui, tous les ça. Deux. Ils font semblant de dormir, donc l'homme s'en va, il ne lève pas la surveillance, ils ne vont pas changer d'endroit, ils restent, l'homme repasse une deuxième fois, ils refont semblant de dormir.
Donc, c'est plutôt un film de Claude Zidi.
On est vraiment dans le burlesque, on veut. Et d'ailleurs, quand les policiers d'ABAC arrivent et qu'ils les contrôlent, ils ne s'attendent absolument pas à ce qu'ils vont trouver, parce que pour eux, on est, comme vous le disiez, face à deux rôdeurs, deux cambrioleurs peut-être, en tout cas rien de professionnel.
Rien de professionnel. Maître Joseph Cohen-Saban, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes dans notre bureau de Nice avec notre ami Michael Lefebvre, que l'on salue d'ailleurs et qui assure ce soir cette liaison téléphonique. Vous êtes l'un des avocats de Marie-Hélène Dini. Un petit mot, Maître Cohen-Saban, sur le profil de ces deux hommes. Ça a l'air très artisanal, là, au début. Là, on est au tout début de l'affaire, mais ce que vient de dire Thomas Proutot s'apprête à sourire.
Oui, je suis d'accord, mais quand même dans une certaine limite. Imaginons que le personnage qui les voit la première fois et voire la seconde fois ne réagisse pas, comme c'est quand même le cas d'innombrables personnes qui croisent dans la rue des choses pas banales, Madame Dini est morte. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de tous les équipements que vous évoquez, il y a deux équipements qui frappent et que vous n'avez pas évoqués. Ils ont chacun des bouchons pour mettre dans les oreilles, pour éviter d'être assourdi par le bruit des balles. Ça s'appelle vraiment être prêt à passer à l'acte. Donc ils sont ridicules jusqu'au moment où on s'aperçoit effectivement qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent passer à l'acte et leur stupidité n'exclut pas du tout,
tout à fait.
Une grande dangerosité.
Bien sûr, la dangerosité et le péril qu'ils peuvent présenter.
Ah oui.
Et effectivement, vous faites bien de rappeler ce détail qui a une importance vraiment importante et qui va sans doute peser dans la suite de l'enquête, c'est qu'ils sont prêts à passer à l'action.
Ah oui.
Ils ont presque, le doigt sur la détente.
Et pardonnez-moi, Madame Dini a une chance inouïe. Ce matin-là, elle a 10 minutes, un quart d'heure de retard.
Et justement, on va lui poser la question à Marie-Hélène Dini. Bonsoir Marie-Hélène Dini.
Bonsoir.
Vous êtes donc la fameuse coach d'entreprise et la victime de cette histoire. Vous êtes la cible visée par ce commando. Est-ce que vous vous souvenez de ce 24 juillet au matin? Où étiez-vous et que faisiez-vous?
Je me suis tout simplement levée comme tous les jours. Je me souviens que j'étais en retard parce que j'avais du mal à partir en fait. Les matins, on a l'impression qu'on n'avance pas et on se dit « Oh mon Dieu, il est déjà cette heure-là ». Bon, en même temps, je n'avais pas de rendez-vous précis. Donc, je suis sortie avec 30 à 45 minutes de retard sur mon horaire habituel.
Vous n'avez rien remarqué, Madame Dini, de particulier en sortant de chez vous?
Ah si, si. En sortant de chez moi, effectivement, j'ai vu un troupement de policiers autour d'une Clio noire. Donc, je me suis approchée, comme j'avais été agressée 9 mois plus tôt et qu'il y avait une Clio noire dans l'histoire. Je me suis approchée, j'ai dit au policier « Excusez-moi, mais j'ai été agressée, il y avait une Clio noire ». Ils semblaient très, très occupés. Ils m'ont dit « Écoutez, on vous rappellera si on voit un lien ». C'était étrange. Je voulais tourner la tête pour regarder si je reconnaissais les personnes et je n'ai jamais réussi à tourner la tête.
Alors, encore un petit mot, Madame Dini. Quelle est votre réaction quand vous apprenez que ces hommes qui sont au bas de chez vous voulaient vous tuer?
D'abord, j'ai cru que c'était une blague. Mais on m'a dit très peu de choses, en fait. Juste qu'il y avait deux personnes qui étaient là pour me tuer. Et vraiment, oui, je vois pas qui. Et quand on me demande, mais qui peut vous avoir envie de vous tuer? Personne. Enfin, j'ai pas reçu de menaces, j'ai pas reçu...
Maître Jean-William Vézinet, vous êtes le deuxième avocat de Marie-Hélène Dini et ce soir dans le studio de l'heure du crime, on est passé très très près là, du drame, c'est ce qu'on disait avec Maître Cohen Saban, hein. on est pas loin de la catastrophe.
Bonsoir. Effectivement, il y a eu le facteur chance qui est intervenu de manière assez incroyable et ça pose d'ailleurs l'un des premiers paradoxes de ce dossier. On parlait tout à l'heure, Thomas Proutot rappelait le paradoxe entre le professionnalisme évident d'agent de la DGSE et puis l'amateurisme dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et puis il y a ce facteur chance qui ne doit pas intervenir en principe sur ce genre d'action dont on a compris qu'elle avait été préparée de longue date.
De longue date.
Et donc minutieusement.
Bien sûr.
Si effectivement il n'y a pas ce père de famille qui amène son gosse à la crèche et qui a ce réflexe d'intervenir, de faire les trois tours, je crains fort effectivement que Mme Dini ne serait plus de ce monde.
Le parquet de Paris laisse l'affaire entre les mains de la brigade criminelle. La juge d'instruction Aline Batoz est désignée pour diriger cette enquête qui va apporter un incroyable lot de surprises. Au cours de leur garde à vue, les deux militaires ont été conduits dans leur chambre du centre parachutiste d'entraînement spécialisé de Saran, dans le Loiret. La perquisition, chose rare dans un lieu aussi sensible, a été immédiatement autorisée par la hiérarchie de la DGSE. Dans la chambre de Pierre B, les policiers découvrent des notes sur le laurier cerise, une plante toxique. Il est encore avéré que les deux hommes ont effectué des reconnaissances à Créteil autour du domicile de la coach d'entreprise, leur cible, dans les semaines précédant la tentative. Il est établi que Pierre B et Karl E, qui se sont donnés comme nom de code Dagomar et Adelard, ne connaissent pas la femme qu'ils devaient éliminer. Pierre B explique que la DGSE ne peut pas agir officiellement sur le sol national pour éliminer un ennemi. Elle délingue donc ce genre de mission à des privés, ce sont eux qui transmettent les ordres. Et ici, l'ordre est venu d'un certain Sébastien. Ce Sébastien L, est vite identifié grâce à la téléphonie. Il présente un profil quelque peu trouble, revendiquant de nombreux contacts dans les milieux policiers et militaires. Il ne dément pas être impliqué dans cette opération. Il a démarché les militaires au mois de juin, un mois donc avant de passer à l'action. Il a fait la connaissance de Pierre, le courant est bien passé. Il a expliqué que l'opération visait une personne censée travailler pour le Mossad, les services secrets israéliens, et que l'ordre émanait de la DGSE. Sébastien L va même recruter un ancien policier qui travaille comme formateur à la DGSE. Celui-ci a notamment fourni un tracker, une balise qui a été installée sous la voiture de Marie-Hélène Dini. Peu à peu, les pièces du puzzle de l'opération se mettent en place. Reste que Sébastien, le recruteur, même s'il admet son rôle, n'est pas le commanditaire. Sur ce point, il reste extrêmement nébuleux, puis se lance dans un récit digne d'un roman de John le Carré. Il dit avoir été contacté par courrier au mois de mai par un correspondant anonyme lui fixant un rendez-vous. Quelques jours plus tard, vers 2h du matin, sous le pont qui surplombe le périphérique parisien aux abords de Saint-Mandé, là, il aurait rencontré un homme à la gueule carrée et au regard d'expert parlant avec un léger accent de l'Est. Un homme qui lui aurait fait très peur et lui aurait proposé de monter une équipe pour supprimer une femme. Sébastien aurait accepté, épuisé dans son carnet d'adresses pour recruter des hommes de main. Quand la juge lui demande si l'homme au visage carré appartient à la DGSE ou à la DGSI, le contre-espionnage, celui-ci répond qu'il n'en sait rien, mais que l'individu prenait des précautions extrêmes. Thomas Proutot, journaliste à RTL et chef du service justice-police de cette belle maison, qui est cet intermédiaire? On va le voir, qui va jouer un rôle essentiel et qui continue à être au centre de cette enquête. On ne donne pas les noms, il faut expliquer d'ailleurs tout simplement aux auditeurs que l'affaire est en cours, qu'elle est un peu compliquée, un peu sensible, et donc on ne peut pas donner comme ça les noms de famille. Pour l'instant, ils sont bloqués, mais ils finiront finalement par apparaître dans cette affaire, comme d'autres noms de personnes qui sont mêlées à des délits ou des crimes. Appelons-le donc Sébastien. Qui est ce Sébastien qui est, encore une fois, je le répète, le pivot, l'intermédiaire?
C'est un personnage extrêmement étrange. Il baigne dans un milieu qu'il appelle lui-même que vous disiez DGSI, DGSE, c'est-à-dire un milieu où il y a des agents d'actifs de la DGSI, des anciens, des gens qui sont au contact, ce qu'on appelle un milieu barbouzard. On comprend aussi qu'il est en lien avec, c'est comme ça qu'il va rencontrer d'ailleurs Yannick P, qu'il est en lien avec des gens de la DGSE pour les besoins de ses activités. Le personnage est très mystérieux et...
En tout cas, il a une vraie surface, il a de l'entregent, puisque hein, il arrive à connecter les uns et les autres. Il a un vrai carnet d'adresses et on s'aperçoit qu'il a beaucoup œuvré dans ces milieux un peu interlopes, dirons-nous, hein, c'est ça.
Non seulement il y a beaucoup œuvré, et en plus, on découvrira plus tard que ça fait un moment qu'il œuvre dans ces milieux et qu'il a réalisé probablement d'autres contrats, ce que l'on apprendra un petit peu plus tard.
Maître Joseph Cohen-Saban, vous êtes à Nice au téléphone de l'heure du crime ce soir et l'un des avocats de Marie-Hélène Dini. Pendant que l'enquête commence, je suppose que les policiers, eux, ils s'intéressent à la cible, à Marie-Hélène Dini, pour savoir si elle n'aurait pas finalement trempé dans une opération douteuse. Je suppose que ce n'est pas très agréable après, avec le recul, mais il y a une enquête sur elle.
Et bien sûr qu'il y a une enquête sur elle, et heureusement qu'il y a une enquête sur elle, parce qu'elle va permettre très très vite de savoir que la stupide histoire du Mossad et du fait qu'elle recrutait ou qu'elle vendait des informations, c'est de la poudre aux yeux, c'est une défense minable de la part de certains des mis en cause. Pour le reste, on s'aperçoit que c'est une personne sans histoire, on s'aperçoit qu'elle dirige une entreprise sérieuse, et très vite, dans leur conviction, et ça se voit dans la manière dont ils informent, dont ils enquêtent, on s'aperçoit très vite qu'en réalité, ils recherchent la piste professionnelle. Et cette piste professionnelle se révélera, in fine, être la bonne.
Bien sûr. Voilà. Ouais. C'est effectivement la piste que suivent les policiers à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres options. Maître Vézinet, vous êtes le deuxième avocat de Marie-Hélène Dini. Est-ce que les deux premiers militaires là, de la DGSE, est-ce que finalement ce ne sont pas les dindons de la farce? Est-ce qu'ils ont cru à cette fable, ou en tout cas à cette option d'une commande de leur hiérarchie?
On ne peut pas occulter totalement, effectivement, qu'ils aient été manipulés par les donneurs d'ordre. Pour autant, que je sache, la notion d'ordre manifestement illégal, ça existe dans notre jargon. Et en première année de droit, on appelle ça la théorie des baïonnettes intelligentes. On vous demande de tuer, que je sache, que ce soit le président de la République ou n'importe qui, c'est illégal. Tout agent de la DGSE qu'ils étaient... ils auraient pu se poser 2-3 questions. J'ai le sentiment qu'ils sont allés un peu vite en besogne, qu'ils ont fait preuve d'assez peu de scrupules.
Et il faut préciser, maître, que la DGSE n'agit pas sur le territoire national.
On est d'accord.
Elle n'a pas
vocation. Vocation. C'est plutôt la DGSI, effectivement.
Oui, la DGSI, enfin, après, les opérations homicides, etc., mais qui sont officiellement interdites, mais en tout cas, qui sont réservées au terrain étranger, terrain extérieur. Hein. La DGSE, c'est pas du contre-espionnage.
On est d'accord. Si vous me permettez juste un petit point qui a été abordé précédemment, vous faisiez état tout à l'heure de la difficulté d'aborder ce dossier, puisqu'il y avait une instruction en cours et qu'on était sur un dossier sensible. À cet égard, je voudrais effectivement m'associer à ce point de vue. L'idée n'est absolument pas de gêner les enquêteurs dans leur travail. Enquêteurs qu'il faut féliciter pour le travail qu'ils ont mené jusqu'ici. Mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à l'origine, on a un premier préjudice tiré d'une agression en octobre 2019. Ma cliente a été passée à tabac. Ensuite, elle est passée à 10 minutes d'un assassinat. Et puis, on la maintient dans la peur, on la maintient dans le préjudice parce qu'on l'accuse effectivement d'être un agent du Mossad. Et de ce point de vue-là, vous savez, la rumeur est tenace. Et malgré les découvertes effectivement récentes qui anéantissent totalement cette thèse, on continue ici ou là à avoir quelques commentaires. Et donc, on a grandement besoin d'urgence, dès aujourd'hui, d'infirmer encore une fois cette défense qualifiée de minable, et je m'y associe par mon confrère tout à l'heure.
Les policiers tirent méthodiquement le fil de l'organisation. Pour le moment, leur enquête s'arrête sous le pont du périphérique avec un inconnu. L'affaire est trouble, mais elle va bientôt être limpide, ou presque.
Les semaines et les mois s'écoulent. La juge Aline Batoz a beaucoup progressé dans son enquête, même si elle a le sentiment de ne détenir sous les verrous qu'une poignée d'intermédiaires. Une troupe œuvrant dans les milieux de la sécurité et du renseignement, des barbouzes aux petits pieds. Reste que sans le hasard et l'intervention d'une patrouille de police, le 24 juillet, Marie-Hélène Dini, la femme à abattre, ne serait peut-être plus aujourd'hui de ce monde. La juge met la pression sur Sébastien L., personnalité pivot dans toute cette affaire. Il a recruté les exécutants après avoir été missionné pour monter une équipe. Il affirme ne rien savoir de l'homme qui lui a mis le contrat en main, si ce n'est qu'il s'agit probablement d'un ancien policier. Son nom, 6 mois après les toutes premières interpellations, va enfin apparaître. La compagne Sébastien L. est entendue par les enquêteurs. Ils cherchent à savoir quelles sont les personnes dont les numéros figurent sur son portable et celui de son ami. La jeune femme finit par évoquer l'existence d'un certain Daniel B. C'est un ancien policier de la Direction centrale du renseignement intérieur, l'ancêtre de la DGSI. Il est aujourd'hui à la retraite. Il connaît Sébastien depuis plusieurs années. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois en 2016. Ils ont travaillé ensemble. L'ex-policier connaît beaucoup de monde et est très calé en matière d'intelligence économique. La compagne explique que c'est cet homme qui a aiguillé Sébastien sur Marie-Hélène Dini, un contrat qui se montrait à 50 000 euros. Daniel B. est le fameux personnage, souvenez-vous, du périphérique, l'homme au visage carré. Le 22 janvier, le mystérieux Daniel B. est interpellé à son tour. Il ne cherche pas à faire mystère de son implication dans l'affaire. Il reconnaît avoir recruté Sébastien pour s'en prendre à Marie-Hélène Dini. Une première fois en 2009, celle-ci avait été effectivement agressée. Il s'agissait d'un avertissement, d'une intimidation dans laquelle Sébastien dément toutefois toute participation. La coach d'entreprise aurait continué à gêner. Il s'agissait donc cette fois d'en finir définitivement avec elle. Daniel B. aurait alors présenté l'opération comme une mission d'État, une commande de la DGSE. On va s'arrêter là un petit instant dans l'heure du crime, si vous le voulez bien, même si les enquêteurs et la juge vont continuer à dérouler cette pelote. Ça n'est pas fini et loin de là. Thomas Proutot, on arrive là au cœur du réacteur, si j'ose dire, dans l'affaire, avec ce Daniel B., Daniel, appelons-le simplement Daniel, qui se met à table, qui parle et qui n'a pas fini de parler, on va le voir. Qu'est-ce qu'il raconte au début ? Il admet tout simplement
Alors d'abord, l'opération. Il admet sa participation à l'opération sans aucune difficulté. Il explique d'ailleurs comment est-ce qu'elle lui a été, à lui-même, commanditée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a approché pour réaliser cette opération en demandant clairement. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Au début, il fallait l'agresser. Puis après, il a été question de tuer cette femme. Et il désigne un autre homme. Frédéric, cette fois-ci.
On va venir à cette étape suivante parce qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont apparaître. Et effectivement, ça va se corser, si j'ose dire.
Ça va se corser derrière. Et il explique qu'on lui a demandé, effectivement, de recruter et on lui a fait passer de l'argent pour recruter ces hommes. Et il explique assez bonnement que ce n'est pas la première opération qu'il réalise avec Sébastien.
Avec Sébastien, oui.
Et qu'il y en a eu d'autres. Vous imaginez la réaction des enquêteurs de la brigade criminelle.
Ils se connaissaient et ils étaient en mèche. Et oui. Sébastien a effectivement menti en disant qu'il ne connaissait pas cette fameux homme au visage carré et que cet homme lui faisait peur. Il ne lui faisait pas peur du tout, puisqu'ils se connaissaient depuis longtemps et ils étaient de mèche. Marie-Hélène Dini, vous êtes également notre invitée ce soir dans l'heure du crime. Je viens de raconter très brièvement, d'ailleurs, dans cette heure du crime, la première agression dont vous avez fait l'objet. C'est important parce qu'il y a eu une persécution qui a continué par la suite. Est-ce que vous vous souvenez, Marie-Hélène Dini, de cette attaque ?
Donc, c'était un matin où je sortais de chez moi à 8h30 du matin, encore une fois en retard, décidément. C'était dans la résidence. Je passe à la hauteur de deux individus, deux hommes. J'ai eu à peine le temps de me dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font là ? Je les ai passés. Et là, j'ai reçu un choc très violent sur la tête. J'ai perdu connaissance et je me suis retrouvée à terre en recevant des coups de pied dans le visage, dans le ventre. Ils essayaient de m'arracher mes sacoches qui étaient coincées sous moi. Et ils m'ont dit, si tu appelles la police, on viendra. Ils me baïonnaient parce que le premier réflexe, c'était de hurler. Et donc, ils me baïonnaient en me disant, si tu hurles, on te tue. Et ensuite, ils sont partis en courant, donc avec mes mallettes. Et moi, J'étais complètement secouée, j'ai même pas eu le réflexe de leur courir après. J'ai fait demi-tour et j'ai croisé ma gardienne qui, elle, est partie voir ce qui se passait. Et c'est là qu'elle a vu qu'il y avait, enfin, il y avait une clé au noir, il y avait un témoin qui avait une clé au noir.
Et Madame Dini, est-ce qu'à l'époque vous faites un lien entre cette attaque et votre activité professionnelle ?
Non, j'ai pas vraiment fait de lien, ça m'a effleurée. Mais très vite, ça semblait tellement incroyable que j'ai chassé l'idée et je me suis juste dit que ben, j'habite Créteil, hein. En tout cas j'habitais Créteil à l'époque, que j'avais pas de chance. Et que, eh bien, dans une résidence calme, particulièrement calme, parce que c'était les vacances scolaires à ce moment-là, eh bien, il y avait deux personnes qui étaient venues, pour parler de façon un peu vulgaire, faire un sac à main, quoi.
Vous aviez des ennemis, Madame Dini ? Vous vous sentiez menacée à cette époque ?
Ça dépend ce qu'on appelle des ennemis dans ma profession. Et quand on a un rôle associatif fort comme je l'ai, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, c'est une évidence. Maintenant, ça se limitait simplement à du désaccord, à une expression d'un désaccord, mais jamais un mot plus haut que l'autre, encore moins des insultes.
Voilà. Maître Cohen-Saban, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime et le défenseur de Marie-Hélène Dini. Vous venez d'écouter votre cliente. Qu'est-ce qu'on sait de cette première agression qui est importante dans le cheminement de cette affaire? C'est Sébastien qui a attaqué Madame Dini ce jour-là. Est-ce qu'on le sait?
Non, on le suppose dans la mesure où il est dénoncé directement par celui qui l'a recruté. Ça fait quand même une chose intéressante à savoir, d'autant plus que dans cette affaire, tout est assez cloisonné malgré tout. Et donc, on en est réduit à, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à prendre les éléments tels qu'ils sont fournis par les différents protagonistes, puis ensuite, on les confrontera à des éléments matériels. Donc, je dirais, moi, qu'il y a de très fortes chances que ce soit lui, d'autant que j'ajoute, et Madame Dini le sait pertinemment, qu'elle a... Quand elle l'a vu, quand on lui a montré la photo de Sébastien, elle a dit « c'est celui qui s'en rapproche le plus ».
Ah, elle le dit quand même.
Oui, elle le dit et elle dit « je ne veux pas être formelle parce que je ne veux pas accuser un innocent, mais cependant, s'il y en a un qui m'a fait ça dans le groupe, c'est bien lui ».
C'est bien lui. Encore un petit mot, Maître Cohen-Saban. Dans cette histoire, tout le monde se met à table. En tout cas, ça va assez vite. En deux mots, mais on n'a pas vraiment affaire à des soldats du grand banditisme.
Ah non, mais c'est l'un des traits les plus remarquables de ce dossier. On arrive à un moment dans les auditions, puisque les policiers font des auditions très longues, très fouillées, très techniques. On arrive à un moment où les mises en cause ouvrent les vannes et se mettent à avouer des choses qu'on ne leur reprochait pas, des choses que personne ne savait. Ils demandent chaque fois à parler à leur avocat pour consulter. Celui-ci parle avec eux et ils reviennent et ils racontent encore plus de choses. Pour moi, c'est hallucinant. Je n'en reviens pas. Je défends depuis quelques 40 années des voyous et jamais ils ne parlent comme ça.
Des révélations qui sont loin d'être terminées. Cette fois, le vrai donneur d'or de l'opération va apparaître en pleine lumière, ainsi que l'existence d'une officine criminelle opérant depuis une loge de la franc-maçonnerie. L'ancien commandant de police Daniel B. se montre bavard auprès de ses collègues de la brigade criminelle. Il a bien actionné son ami pour faire abattre la coach d'entreprise, mais il n'est pas pour autant lui le commanditaire. L'ex-flic du renseignement raconte qu'il entretient des relations suivies avec une loge maçonnique. Il est lui-même franc-maçon. Il explique que c'est l'un de ses frères, Frédéric V, qui dirige une société de sécurité privée, qui lui a parlé pour la première fois de ce contrat. Mais là encore, Frédéric ne serait qu'un intermédiaire. Le vrai commanditaire est un autre franc-maçon. Il a le grade de vénérable dans la loge. Il s'appelle Jean-Luc Abbé. Tout ce beau monde est placé en garde à vue. Jean-Luc Abbé ne cherche pas, lui non plus, à tenir tête aux enquêteurs. Il reconnaît avoir été en contact avec certaines personnes impliquées dans cette opération. Il dément toutefois toute volonté d'avoir voulu faire tuer Marie-Hélène Dini. Il n'a donné, dit-il, aucun ordre dans ce sens. Il voulait juste qu'on la place sous surveillance. Si Jean-Luc Abbé s'intéresse autant à Marie-Hélène Dini, c'est qu'elle fait partie de ses concurrents directs dans le domaine du coaching d'entreprise. Elle est même devenue une espèce de bête noire. Il n'aurait pas accepté qu'elle veuille mettre en place une certification d'État unique pour le coaching de société, activité qui, selon elle, n'est pas assez encadrée. Marie-Hélène Dini et Jean-Luc Abbé se connaissent bien.
se sont parfois affrontés. La coach avait d'ailleurs mentionné son nom dans une liste de ses possibles ennemis, liste remise à la police judiciaire. L'ancien commandant de police Daniel B. ne va pas s'arrêter en si bon chemin, question confidence. Il affirme que son frère de la loge maçonnique, Frédéric V., n'en est pas à son coup d'essai, question crime. 2 ans auparavant, il se serait lui-même occupé de faire disparaître un pilote automobile bien connu sur les circuits, Laurent Pasquali, 43 ans. Ce Corse qui n'aurait pas honoré certaines dettes d'argent avait effectivement quitté sans raison à l'automne 2018 son domicile à Levallois-Perret. Les restes de son corps allaient être découverts par hasard 1 an plus tard dans un bois de la commune de Sistrières en Haute-Loire. À l'époque, le où les tueurs de Laurent Pasquali n'avaient pas été identifiés jusqu'à ce que son nom ressurgisse à la faveur de cette enquête. Marie-Hélène Dini, vous êtes ce soir dans, notre invitée dans l'heure du crime, la victime dans cette affaire, il faut le rappeler. Je suppose que à ce moment-là, vous êtes surprise, ou peut-être pas d'ailleurs, de voir apparaître ce fameux Jean-Luc Abbé qui vous en veut tant. C'est un concurrent, c'est ça ?
Oui, un concurrent, mais depuis longtemps. C'est une espèce de concurrence existante, stimulante et qui se passe bien depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est une personne que j'ai eu effectivement l'occasion de rencontrer à certaines occasions lors de colloques ou notamment pour créer ensemble tout ce qui est référentiel de compétences. Coach.
Alors, Maître Jean-William Vézinet, vous êtes l'un des avocats de Marie-Hélène Dini. Votre cliente parle de concurrent, je veux bien, mais là, ça dépasse un peu le stade peut-être de la concurrence. Il faut vraiment que la haine soit immense pour demander une telle opération, même si l'intéressé nie absolument avoir voulu faire du mal à Madame Dini.
Alors, je vais me permettre une correction tout de suite, puisqu'effectivement, si... il a été assez laborieux d'obtenir des déclarations de sa mise en examen. Il semblerait qu'il ait fini par admettre avoir commandité le meurtre de ma cliente.
Il a fini par admettre, tout d'accord, parce qu'il a été très hésitant au début.
Très hésitant, il a fini par admettre de manière tout à fait non équivoque et sans ambiguïté qu'il avait validé cette tentative d'assassinat. Pour le reste de votre question, vous entendez ma cliente, même à l'heure d'aujourd'hui, la confirmation que son intuition finalement était la bonne, puisqu'elle avait quand même envisagé cette piste-là. Quand les enquêteurs lui demandent si elle se connaît des ennemis, elle envisage effectivement cette concurrence.
Oui, elle a, voilà. Banale.
Mais même après avoir appris effectivement l'identité de celui qui vraisemblablement avait commandité son assassinat, ça la laisse et ça nous laisse encore perplexes. On ne comprend pas pourquoi, au motif d'une concurrence professionnelle, on arrive pour la modique somme de 50 ou 70 000 euros, puisque ce sont les chiffres qui sont évoqués dans ce dossier, à commander l'assassinat d'une femme.
Oui, elle n'y croit pas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elle est totalement incrédule.
Exactement, exactement. Et ça pose d'énormes questions sur la nature humaine et sur
ce que qu'on
est capable de faire dans un milieu tout de même qui paraît de l'extérieur assez respectable.
C'est ce que je vous disais, cette capacité de haine. Thomas Proutot, je voudrais qu'on vous disiez quelques mots sur cette deuxième affaire connexe, si vous voulez, avec la mort de Laurent Pasquali, le fameux pilote automobile. Pourquoi l'a-t-on tué ? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ?
On ne sait absolument pas. C'est d'ailleurs un des points que les enquêteurs de la brigade criminelle vont... C'est très loin, l'enquête était instruite à Nanterre, vous le disiez, mais sans aucune réponse. Le dossier a été transféré à Paris, il est joint au dossier global. Il y a effectivement cette question de dette, mais alors attention, on est dans la phase des auditions.
Bien sûr. Très évolutif, on vient d'ailleurs le voir avec les
pour l'instant, ça repose sur les déclarations de Daniel, vous le disiez, qui s'est mis à table, qui a raconté de lui-même qu'il avait effectivement lui a demandé d'exécuter. Il parle de dette. Il parle également d'une autre histoire de ce Daniel qu'on peut peut-être évoquer rapidement. Il dit qu'il y a une autre tentative.
Oui, c'est ça.
Avec un syndicaliste de Bourg-en-Bresse
qui n'aurait pas abouti.
Qui n'a pas abouti. On a pu identifier cette personne. Ouais. Personne n'existe. Elle ne souhaite pas être contactée.
Comme quoi, il y a une véritable petite officine du crime. Et je voudrais qu'on entende là-dessus Maître Joseph Cohen-Saban, vous êtes également l'avocat de Marie-Hélène Dini. C'est étonnant, cette loge maçonnique qui sert quand même de creuset à des affaires criminelles.
C'est étonnant et c'est désespérant, je vous dirais. Parce qu'il y a quand même un trait commun à l'ensemble des personnages de ce dossier. Ils n'ont aucun la moindre empathie pour Marie-Hélène Digny, pas un mot pour évoquer simplement qu'ils allaient tuer une mère de famille, un employeur, une collègue, une consoeur, que sais-je. Pas un mot, d'une part. D'autre part, un sens moral totalement absent, mais totalement absent. C'est-à-dire qu'on nous donne un contrat, personne n'oublie de se faire payer et grassement payer, eh bien on tue. Alors parce que c'est du Mossad, parce que c'est ceci, parce qu'il doit de l'argent, et on tue les gens. Ça, il va falloir quand même que chacun pense sérieusement à en répondre.
En 6 mois, l'enquête sur la tentative de meurtre de Marie-Hélène Digny semble bouclée. Un meurtre, celui du pilote Laurent Pasquali, c'est clair. Il reste pourtant bien des vérifications à entreprendre, savoir notamment si ce réseau criminel n'a pas piloté d'autres contrats. La fameuse loge maçonnique au sein de laquelle le sort réservé à Marie-Hélène Digny aurait été tranché est dans l'œil des enquêteurs. D'autant plus que c'est au sein de cette même loge que serait partie également la décision de faire disparaître le pilote automobile Laurent Pasquali. La juge de l'affaire Digny pourrait être rapidement chargée de ce dossier connexe. D'autant plus que les révélations ne sont peut-être pas terminées. Et les surprises toujours possibles après la coach d'entreprise et le pilote automobile, l'ancien policier du renseignement Daniel B., décidément très bavard, a évoqué un projet d'assassinat contre un syndicaliste de l'Ain. Mais ce projet serait finalement resté lettre morte. Au journal Le Parisien, un policier confie « Nous sommes au bout de la chaîne dans cette affaire. Pour de l'argent, des gros bras ont dévoyé une loge maçonnique pour commettre de basses œuvres dans une forme d'entraide mortifère. 8 personnes mises en examen et écrouées. Une entraide mortifère, comme dit le policier, qui à quelques minutes près a failli coûter la vie à Marie-Hélène Digny. Une coach d'entreprise qui ne s'est jamais réellement remise de cette histoire. L'une des victimes de cette officine qui agissait, semble-t-il, comme une authentique famille mafieuse. Marie-Hélène Digny, vous êtes, je viens de le rappeler, la victime dans cette histoire, et vous êtes ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Où en êtes-vous aujourd'hui, après ces 6 mois d'enquête et puis toute cette affaire ?
En ce moment, je suis en arrêt, honnêtement, maladie, parce que à la suite de ça, j'ai donc développé une maladie. Mais sinon, normalement, là, en fin d'année dernière, etc., j'avais repris mon activité en faisant très, très attention, je dirais, à mon état de fatigue, etc., puisque les médecins disent qu'il faut quand même plusieurs mois. Il paraît que même physiologiquement, c'est long. Il y avait un fort risque de burn-out à un moment donné.
Un risque de burn-out. Vous avez quitté la région parisienne, je crois. Vous êtes protégée ?
Je ne suis pas protégée, mais il y a des endroits... Pas tout le temps, mais il y a des endroits où je ne me rends que soit accompagnée, soit voire même avec chauffeur et garde du corps.
Vous avez toujours peur aujourd'hui, Madame Digny ?
Je crois que quand on a vécu ça, en fait, on n'est jamais complètement rassuré. Dès que je vois quelque chose d'anormal autour de moi, ou quelqu'un qui me colle trop dans la rue, ou quelqu'un qui semble me suivre ou nous suivre, là, je ne me sens pas bien.
Maître Vézinet, on écoute évidemment votre cliente. Elle n'est pas morte dans cette histoire. Elle a failli mourir. C'est passé très près. Mais c'est un vrai traumatisme, un choc total qui reste. Ça fait beaucoup de dégâts, cette histoire.
Ça fait beaucoup de dégâts et ça perdure. Parce qu'encore une fois, on a au fur et à mesure de l'avancée de cette enquête les réponses à nos interrogations, mais on ne les aura peut-être jamais toutes. On s'interroge sur le mobile et puis vous savez, vous avez l'attitude de tous les mises en cause dans ce dossier, comme il était rappelé tout à l'heure, on a des gens qui présentent ce paradoxe de se sentir un petit peu en toute puissance, qui font des révélations assez surprenantes, et ça interroge. On a l'impression d'avoir des gens, affaire à des gens qui se sentent protégés, surprotégés, et ça inquiète, ça inquiète encore. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va nous sortir encore du chapeau. Pour l'exemple, Madame Digny vous dit, il a fallu effectivement que je me protège, elle vous parle de garde du corps, etc. Il a fallu choisir une agence de sécurité. Ce dossier est bourré d'anciens agents des GSE, des GSI, des CRI, qui se sont tous reconvertis dans la sécurité. Comment vous faites le choix ? Voyez-vous, donc, vous avez cette inquiétude permanente, et elle n'en est pas encore encore sorti. Oui. Et cela a fait, elle vous le confie ce soir, donc je peux me permettre d'en parler, beaucoup de dégâts également sur sa santé.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, hein. C'est très 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 lourd à porter. Maître Cohen Saban, vous êtes notre... également notre invité ce soir dans l'heure du crime et l'autre avocat de Marie-Hélène Dini. J'ai envie de dire des morts pour quelques milliers d'euros, c'est presque des petits meurtres entre amis. Pardon de cette terminologie, mais on a l'impression que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qui a été fait, des dégâts causés.
Tout à fait. Il y a une espèce de notion d'abolition de tous les freins face au passage à l'acte. Moi, on vient me demander si je connais quelqu'un pour débarrasser le plancher ou pour nettoyer une personne, c'est-à-dire la tuer. Je dis que j'ai défendu des assassins, j'ai défendu des criminels, mais pour autant, je ne vais pas aller en recruter un pour quelques sommes que ce soit. Or là, il me l'a demandé, je connais quelqu'un qui est capable de recruter, donc je vais le voir. Et quand ce quelqu'un me dit oui, je ne m'intéresse plus à l'affaire jusqu'à ce qu'on vienne me ramener la photo ou la démonstration que la sale besogne a été exécutée. Donc c'est des gros meurtres entre vrais amis qui aujourd'hui sont de purs ennemis parce qu'ils se dénoncent les uns les autres comme les plus petites racailles que l'on peut croiser dans les dossiers au quotidien.
C'est une dérive mafieuse, effectivement, même si là, l'omerta, elle ne tient pas, elle n'est pas respectée puisque tout le monde s'est mis à table. Il faut le préciser, enquête express, hein, 6 mois pour une enquête comme ça. Bravo la brigade criminelle, on tire leur chapeau ce soir parce que vraiment, c'est du beau boulot, comme on dit. Thomas Proutot, on en est où de l'enquête aujourd'hui?
Alors, on n'est pas du tout au bout, parce qu'il va falloir éclairer les rôles respectifs, justement, des celui qu'on appelle le vétéran dans la loge, Jean-Luc, le commanditaire, concurrent de Madame Dini. C'est très mystérieux, quand même, cet homme. Alors, le milieu du coaching, en plus, c'est un milieu...
Oui, un mot sur ce commanditaire, allez-y.
Alors, un mot sur Jean-Luc, donc le concurrent de Madame Dini. Il est arrivé dans ce milieu du coaching professionnel il y a une dizaine d'années, et elle me disait elle-même qu'il est arrivé un peu de nulle part. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où il est vraiment sorti pour arriver dans ce milieu... qui était encore jusqu'à 10 ans, pas du tout structuré. Vous savez, le coaching professionnel, ça mélange des techniques de développement personnel, parfois d'hypnose, parfois d'un certain nombre de techniques qui sont, ça paraît sulfureux, mais ça devient très sérieux et c'est un vrai business aujourd'hui qui se structure. Et c'était justement le rôle de Marie-Hélène Dini qu'elle a voulu faire, c'est avoir des diplômes d'État, des reconnaissances d'État pour avoir des vraies formations. Lui n'a pas été d'accord et il semblerait, mais là on ne va pas trop s'avancer parce qu'on est dans les franges du dossier qui sont en train d'explorer, que lui-même, même si n'en était pas à son premier coup, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de meurtre, mais il a pu, possiblement, parce qu'il en est soupçonné, exercer des coups de pression sur d'autres personnes de ce milieu, notamment via un incendie volontaire, dont on aura probablement l'occasion de reparler. Ce personnage inquiétait déjà dans ce milieu. Il était au minimum rugueux, on va dire.
Par exemple, Maître Vézinet, vous êtes l'un des avocats de Marie-Hélène Dini, on peut estimer aujourd'hui qu'il y a d'autres personnages qui vont apparaître dans ces affaires connexes, même si le dossier Dini paraît être bouclé, il faut bien le dire aujourd'hui.
Le dossier de Mme Dini, effectivement, on a le début, on a la fin, on aura peut-être encore quelques intervenants, je n'en sais rien, mais effectivement, il semble qu'on ait l'histoire principale. Mais il semble qu'effectivement, le fil puisse encore être tiré. Alors, je me garderai bien de faire tout commentaire, effectivement, sur des dossiers qui émergent et qui font, à l'heure actuelle, l'objet de lourdes investigations, mais il semblerait qu'effectivement, ce dossier fasse émerger d'autres affaires tout aussi inquiétantes.
Maître Cohen Saban, vous allez avoir le dernier mot, la parole est à la défense, comme on dit.
Et aux anciens.
Et aux anciens, voilà, avec tout mon respect. Quelle leçon tirer, Maître Cohen Saban, de cette histoire? En quelques mots, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission.
En quelques mots, c'est-à-dire que le crime peut se retrouver désormais, aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, à tous les coins de rue. Lorsque des gens dont la tâche fondamentale est d'assurer la sécurité des gens et de les élever sur le plan philosophique, comme pour la franc-maçonnerie, de les protéger en étant garde du corps ou en protecteur rapproché, de les défendre en étant de la police ou en étant de l'armée, quand même, toutes ces institutions ont leur part d'ombre, même si elles sont fantastiques par ailleurs, mais ont leur part d'ombre, ça veut dire que ça peut venir de n'importe où. Et je ne vous cache pas que c'est effrayant.
Merci beaucoup, Maître Cohen-Sorban. Vous étiez à Nice avec Michael Lefebvre, qu'on salue ce soir dans l'heure du crime. Invité également ce soir, Maître Jean-William Vézinet et puis Thomas Proutot du service justice police de RTL. Vous nous avez tous parlé ce soir de l'affaire Marie-Hélène Dini entre barbouze et franc-maçon dévoyé, une tentative de meurtre et un meurtre peut-être élucidé. Enquête à suivre. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.